Les frères Karamazov, troisième partie, livre 9, l'instruction préparatoire. Chapitre 1, les débuts du fonctionnaire Perkotine. Piotr Ilitch Perkotine, que nous avons laissé frappant de toutes ses forces à la porte cochère de la maison Morozov, finit naturellement par se faire ouvrir. En entendant un pareil vacarme, Fénia, encore mal remise de sa frayeur, faillit avoir une crise de nerfs. Bien qu'elle eût assisté à son départ, elle s'imagina que c'était Dmitri Fiodorovitch qui revenait, car lui seul pouvait frapper si insolemment. Elle accourut vers le portier, réveillée par le bruit, et le supplia de ne pas ouvrir. Mais celui-ci, ayant appris le nom du visiteur et son désir de voir Fédossia Markovna pour une affaire importante, se décida à le laisser entrer. Piotr Ilitch se mit à interroger la jeune fille et découvrit aussitôt le fait le plus important. En se lançant à la recherche de Grushenka, Dmitri Fiodorovitch avait emporté un pilon et était revenu les mains vides, mais ensanglanté. « Le sang en dégoûtait !» s'exclama Fénia, imaginant dans son trouble cette affreuse circonstance. Piotr Ilitch les avait vues, ses mains, et aidé à les laver. Il ne s'agissait pas de savoir si elles avaient séché rapidement, mais si Dmitri Fiodorovitch était allé vraiment chez son père avec le pilon. Piotr Ilitch insista sur ce point, et bien qu'il n'eût en somme rien appris de certain, il demeura presque convaincu que Dmitri Fiodorovitch n'avait pu se rendre que chez son père, et que par conséquent, il avait dû se passer là-bas quelque chose. « À son retour, ajouta Fénia, et lorsque je lui eus tout avoué, je lui ai demandé « Dmitri Fiodorovitch, pourquoi avez-vous les mains en sang ?» Il m'a répondu que c'était du sang humain et qu'il venait de tuer quelqu'un, puis il est sorti en courant comme un fou. Je me suis prise à songer « Où peut-il bien aller maintenant ?»« À Mokroyé, tu es sa maîtresse. » Alors j'ai couru chez lui pour le supplier de l'épargner. En passant devant la boutique de Plotnikov, je l'ai vu prêt à partir et j'ai remarqué qu'il avait les mains propres. » La grand-mère confirma le récit de sa petite-fille. Piotr Ilitch quitta la maison encore plus troublé qu'il n'y était entré. Le plus simple semblait maintenant d'aller tout droit chez Fiodor Pavlovitch, s'enquérir s'il n'était rien arrivé. Puis, une fois édifié, de se rendre chez l'ispravnik. Piotr Ilitch y était bien résolu. Mais la nuit était sombre, la porte cochère massive. Il ne connaissait que fort peu Fiodor Pavlovitch. Si à force de frapper on lui ouvrait et qu'il ne se fût rien passé, demain le malicieux Fiodor Pavlovitch irait raconter en ville, comme une anecdote, qu'à minuit, le fonctionnaire Perkotine, qu'il ne connaissait pas, avait forcé sa porte pour s'informer si on ne l'avait pas tué. Ça ferait un beau scandale. Or, Piotr Ilitch redoutait par-dessus tout le scandale. Néanmoins, le sentiment qu'il entraînait était si puissant qu'après avoir tapé du pied avec colère et s'être dit des injures, il s'élança dans une autre direction, chez Madame Koklakov. Si elle répondait négativement à la question des 3 000 roubles donnés à telle heure à Dmitri Fiodorovitch, il irait trouver l'ispravnik, sans passer chez Fiodor Pavlovitch. Sinon, il remettrait tout au lendemain et retournerait chez lui. On comprend bien que la décision du jeune homme de se présenter à 11 heures du soir chez une femme du monde inconnue, de la faire lever, peut-être, pour lui poser une question singulière, risquait de provoquer un bien autre scandale qu'une démarche auprès de Fiodor Pavlovitch. Mais il arrive souvent que les gens les plus flegmatiques prennent en pareil cas des décisions de ce genre. Or, à ce moment-là, Piotr Ilitch n'était pas du tout flegmatique. Il se rappela toute sa vie comment le trouble insurmontable qui s'était emparé de lui dégénéra en supplice et l'entraîna contre sa volonté. Bien entendu, il s'injuria tout le long du chemin pour cette sotte démarche, mais « j'irai jusqu'au bout », répétait-il pour la 10e fois en grinçant des dents. Et il tint parole. 11 heures sonnaient quand il arriva chez Madame Koklakov. Il pénétra assez facilement dans la cour, mais le portier ne put lui dire avec certitude si Madame était déjà couchée, comme elle en avait l'habitude à cette heure. « Faites-vous annoncer, vous verrez bien si on vous reçoit ou non. » Piotr Ilitch monta. Mais alors les difficultés commencèrent. Le valet ne voulait pas l'annoncer. Il finit par appeler la femme de chambre. D'un ton poli, mais ferme, Piotr Ilitch la pria de dire à sa maîtresse que le fonctionnaire Perkotine désirait lui parler au sujet d'une affaire importante, sans quoi il ne se serait pas permis de la déranger. « Annoncez-moi en ces termes, » insista-t-il. Il attendit dans le vestibule. Madame Koklakov se trouvait déjà dans sa chambre à coucher. La visite de Mitya l'avait retournée. Elle pressentait pour la nuit une migraine ordinaire en pareil cas. Elle refusa avec irritation de recevoir le jeune fonctionnaire, bien que la visite d'un inconnu, à pareille heure, surexcita sa curiosité féminine. Mais Piotr Ilitch s'entêta cette fois comme un mulet. Se voyant repoussé, il insista impérieusement et fit dire dans les mêmes termes qu'il s'agissait d'une affaire fort importante et que Madame regretterait peut-être ensuite de ne l'avoir pas reçue. La femme de chambre le considéra avec étonnement et retourna faire la commission. Madame Koklakov fut stupéfaite, réfléchit, demanda quel air avait le visiteur et apprit qu'il était bien mis, jeune, fort poli. Notons en passant que Piotr Ilitch était beau garçon et qu'il le savait. Madame Koklakov se décida à se montrer. Elle était en robe de chambre et en pantoufles, mais jeta un châle noir sur ses épaules. On pria le fonctionnaire d'entrer au salon. La maîtresse du logis parut, l'air interrogateur, et, sans faire asseoir le visiteur, l'invita à s'expliquer. « Je me permets de vous déranger, madame, au sujet de notre connaissance commune, Dmitri Fiodorovitch Karamazov. » commença Perkotine. Mais à peine avait-il prononcé ce nom qu'une vive irritation se peignit sur le visage de son interlocutrice. Elle étouffa un cri et l'interrompit avec colère. « Va-t-on me tourmenter encore longtemps avec cet affreux personnage ? Comment avez-vous le front de déranger à pareille heure une dame que vous ne connaissez pas, pour lui parler d'un individu qui, ici même, il y a 3 heures, est venu m'assassiner, m'a frappé du pied et sorti d'une façon scandaleuse ? Sachez, monsieur, que je porterai plainte contre vous. Veuillez vous retirer sur le champ. Je suis maire, je... » « Alors, il voulait vous tuer aussi ? Est-ce qu'il a déjà tué quelqu'un ?» demanda impétueusement Madame Koklakov. « Veuillez m'accorder une minute d'attention, madame, et je vous expliquerai tout, » répondit avec fermeté Perkotine. « Aujourd'hui, à 5 heures de relevé, Monsieur Karamazov m'a emprunté 10 roubles en camarade, et je sais positivement qu'il était sans argent. À 9 heures, il est venu chez moi, tenant en main une liasse de billets de 100 roubles, pour 2 ou 3 000 roubles environ. Il avait l'air d'un fou, les mains et le visage ensanglantés. À ma question « D'où provenait tant d'argent ?», il répondit textuellement qu'il l'avait reçu de vous, et que vous lui avanciez une somme de 3 000 roubles pour partir, soi-disant, aux mines d'or. Le visage de Madame Koklakov exprima une émotion soudaine. « Mon Dieu, c'est son vieux père qui l'a tué !» s'exclama-t-elle en joignant les mains. « Je ne lui ai pas donné d'argent, pas du tout. Oh, courez, courez, n'en dites pas davantage. Sauvez le vieillard, courez vers son père. » « Permettez, madame, ainsi vous ne lui avez pas donné d'argent. Vous êtes bien sûre de ne lui avoir avancé aucune somme. » « Aucune, aucune, j'ai refusé, car il ne savait pas apprécier mes sentiments. » Il est parti furieux en frappant du pied. Il s'est jeté sur moi, je me suis rejeté en arrière. Figurez-vous, car je ne veux rien vous cacher, qu'il a craché sur moi. Mais pourquoi rester debout? Asseyez-vous, excusez, ou courez plutôt sauver ce malheureux vieillard d'une mort affreuse. Mais s'il l'a déjà tué... En effet, mon Dieu, qu'allons-nous faire maintenant? Que pensez-vous qu'on doit faire? Cependant, elle avait fait asseoir Piotr Ilitch et pris place en face de lui. Il lui exposa brièvement les faits dont il avait été témoin, raconta sa récente visite chez Fénia et parla du pilon. Tous ces détails bouleversèrent la dame, qui poussa un cri, mit la main devant ses yeux. « Figurez-vous que j'ai pressenti tout cela. C'est un don chez moi. Tous mes pressentiments se réalisent. Combien de fois j'ai regardé ce terrible homme en songeant « Il finira par me tuer ?» Et voilà que c'est arrivé. Ou plutôt, s'il ne m'a pas tué maintenant comme son père, c'est grâce à Dieu qu'il m'a protégé. De plus, il a eu honte, car je lui avais attaché au cou, ici même, une petite image provenant des reliques de Sainte-Barbe, martyr. J'ai été bien près de la mort à cette minute. Je m'étais approché tout à fait de lui. Il me tendait le cou. Savez-vous, Piotr Ilitch, vous avez dit, je crois, qu'on vous appelle ainsi. Je ne crois pas au miracle, mais cette image, ce miracle évident en ma faveur, cela m'impressionne, et je recommence à croire à n'importe quoi. Avez-vous entendu parler du Starézosime? D'ailleurs, je ne sais pas ce que je dis. Figurez-vous qu'il a craché sur moi avec cette image au cou. Craché seulement, sans me tuer, et voilà où il a couru. Qu'allons-nous faire maintenant? Dites, qu'allons-nous faire? Piotr Ilitch se leva et déclara qu'il allait tout raconter à l'Ispravnik et que celui-ci agirait à sa guise. Ah, je le connais, c'est un excellent homme, allez vite le trouver. Que vous êtes ingénieux, Piotr Ilitch, à votre place je n'y aurais jamais songé. D'autant plus que je suis moi-même en bon terme avec l'Ispravnik, insinua Piotr Ilitch, visiblement désireux d'échapper à cette dame expansive qui ne lui laissait pas prendre congé. Savez-vous, venez me raconter ce que vous aurez vu et appris, les constatations, ce qu'on fera de lui. Dites-moi, la peine de mort n'existe pas chez nous. Venez sans faute, fût-ce à 3 ou 4 heures du matin, faites-moi réveiller, secouez si je ne me lève pas. D'ailleurs, je ne dormirai pas sans doute. Et si je vous accompagnais? Non, mais si vous certifiez par écrit à tout hasard que vous n'avez pas donné d'argent à Dmitri Fiodorovitch, cela pourrait servir à l'occasion. Certainement, approuva Madame Koklakov en s'élançant à son bureau. Votre ingéniosité, votre savoir-faire me confondent. Vous êtes employé ici? Cela me fait grand plaisir. Tout en parlant, elle avait à la hâte tracé ces quelques lignes en gros caractères. « Je n'ai jamais prêté 3 000 roubles au malheureux Dmitri Fiodorovitch Karamazov, ni aujourd'hui ni auparavant. Je le jure par ce qu'il y a de plus sacré. » Koklakov. « Voilà qui est fait, » fit-elle en se retournant vers Piotr Ilitch. « Allez, sauvez son âme. C'est un grand exploit que vous accomplissez. » Elle fit 3 fois sur lui le signe de la croix et le reconduisit jusqu'au vestibule. « Que je vous suis reconnaissante! Vous ne pouvez vous imaginer comme je vous suis reconnaissante d'être venue d'abord me trouver. Comment se fait-il que nous ne nous soyons jamais rencontrés? Je serai charmée de vous recevoir dorénavant. Je constate avec plaisir que vous remplissez vos devoirs avec une exactitude, une ingéniosité remarquable. » Mais on doit vous apprécier, vous comprendre, enfin, et tout ce que je pourrais faire pour... soyez sûr. Oh, j'aime la jeunesse, j'en suis éprise. Les jeunes gens sont l'espoir de notre malheureuse Russie. Allez, allez. » Piotr Ilitch s'était déjà sauvé, sinon elle ne l'aurait pas laissé partir si vite. D'ailleurs, Madame Koklakov lui avait produit une impression assez agréable, qui adoucissait même son appréhension de s'être engagé dans une affaire aussi scabreuse. On sait que les goûts sont fort variés. « Et elle n'est pas si âgée ? » songeait-il avec satisfaction. « Au contraire, je l'aurais prise pour sa fille. » Quant à Madame Koklakov, elle était tout bonnement aux anges. Un tel savoir-faire, une telle précision, chez un si jeune homme, avec ses manières et son extérieur. On prétend que les jeunes gens d'aujourd'hui ne sont bons à rien. Voilà un exemple, etc. Si bien qu'elle oublia même cet affreux événement. Une fois couchée, elle se rappela vaguement qu'elle avait été près de la mort et murmura « Ah, c'est affreux, affreux !» Mais elle s'endormit aussitôt d'un profond sommeil. Je ne me serais d'ailleurs pas étendue sur des détails aussi insignifiants si cette rencontre singulière du jeune fonctionnaire avec une veuve encore fraîche n'avait influé par la suite sur toute la carrière de ce jeune homme méthodique. On s'en souvient même avec étonnement dans notre ville, et nous en dirons peut-être un mot en terminant la longue histoire des frères Karamazov. Chapitre 2. L'alarme. Notre ispravnik Mikhaël Makarovitch, lieutenant-colonel en retraite, devenu conseiller de cour, était un brave homme. Établi chez nous depuis 3 ans seulement, il s'était attiré la sympathie générale parce qu'il savait réunir la société. Il y avait toujours du monde chez lui, ne fût-ce qu'une ou deux personnes à dîner. Il n'aurait pu vivre sans cela. Les prétextes les plus variés motivaient les invitations. La chair n'était pas délicate, mais copieuse. Les tourtes de poisson, excellentes. L'abondance des vins compensait leur médiocrité. Dans la première pièce se trouvait un billard avec des gravures de courses anglaises encadrées de noir, ce qui constitue, comme on sait, l'ornement nécessaire de tout billard chez un célibataire. On jouait tous les soirs aux cartes. Mais souvent, la meilleure société de notre ville se réunissait pour danser. Les mères amenaient leurs filles. Mikhaël Makarovitch, bien que veuf, vivait en famille, avec sa fille veuve et ses 2 petites filles. Celles-ci, qui avaient terminé leurs études, étaient assez gentilles et gaies, et, bien que sans dot, attiraient chez leur grand-père la jeunesse mondaine. Bien que borné et peu instruit, Mikhaël Makarovitch remplissait ses fonctions aussi bien que beaucoup d'autres. Il avait toutefois des vues erronées sur certaines réformes du présent règne, et cela plus par indolence que par incapacité, car il ne trouvait pas le temps de les étudier. J'ai l'âme d'un militaire plutôt que d'un civil, se disait-il en parlant de lui-même. Bien qu'il eût des terres au soleil, il ne s'était pas encore formé une idée très nette de la réforme paysanne, et n'apprenait à la connaître que peu à peu, par la pratique et malgré lui. Sûr de trouver du monde chez Mikhaël Makarovitch, Piotr Ilitch y rencontra en effet le procureur, venu faire une partie, le jeune médecin de Zemstvo, Varvinsky, récemment arrivé de Pétersbourg, où il était sorti un des premiers de l'école de médecine. Le procureur, c'est-à-dire le substitut, mais tous l'appelaient ainsi, Hippolyte Kirillovitch, était un homme à part, encore jeune, 35 ans, mais disposé à la tuberculose, marié à une femme obèse et stérile, remplie d'amour-propre, irascible, tout en possédant de solides qualités. Par malheur, il se faisait beaucoup d'illusions sur ses mérites, ce qui le rendait constamment inquiet. Il avait même des penchants artistiques, une certaine pénétration psychologique appliquée aux criminels et aux crimes. C'est pourquoi il se croyait victime de passe-droit, bien convaincu qu'on ne l'appréciait pas à sa valeur dans les hautes sphères. Aux heures de découragement, il menaçait même de se faire avocat d'assises. L'affaire Karamazov le galvanisa tout entier. Une affaire qui pouvait passionner la Russie. Mais j'anticipe. Dans la pièce voisine se tenait, avec les demoiselles, le jeune juge d'instruction, Nicolas Parthenovitch Nelyudov, arrivé depuis 2 mois de Pétersbourg. On s'étonna plus tard que ces personnages se fussent réunis comme exprès le soir du crime, dans la maison du pouvoir exécutif. Cependant, il n'y avait rien là que de fort naturel. La femme d'Hippolyte Kirillovitch, souffrant des dents depuis la veille, il avait dû se soustraire à ses plaintes. Le médecin ne pouvait passer la soirée que devant un tapis vert. Quant à Nelioudov, il avait projeté de rendre visite ce soir-là à Mikhaïl Makarovitch, soi-disant par hasard, afin de surprendre la fille de celui-ci, Olga Mikhaïlovna, dont c'était l'anniversaire. Il connaissait ce secret, que d'après lui, elle dissimulait pour ne pas organiser de sauterie. À son âge, qu'elle craignait de révéler, cela prêtait à des allusions moqueuses. Demain, il en parlerait à tout le monde, etc. Ce gentil garçon était, à cet égard, un grand polisson. Ainsi l'avaient surnommé nos dames, et il ne s'en plaignait pas. De bonne compagnie, de famille honorable, bien élevée, ce jouisseur était inoffensif et toujours correct. De petite taille et de complexion délicate, il portait toujours à ses doigts frêles quelques grosses bagues. Dans l'exercice de sa charge, il devenait très grave, car il avait une haute idée de son rôle et de ses obligations. Il savait surtout confondre, lors des interrogatoires, les assassins et autres malfaiteurs du bas peuple, et suscitait en eux un certain étonnement, sinon du respect pour sa personne. En arrivant chez Lise Pravnik, Piotr Ilitch fut stupéfait de voir que tout le monde était au courant. En effet, on avait cessé de jouer, tous discutaient la nouvelle. Nicolas Parthenovitch prenait même des airs belliqueux. Piotr Ilitch apprit avec stupeur que le vieux Fiodor Pavlovitch avait effectivement été assassiné ce soir, chez lui, assassiné et dévalisé. Voici comment on venait d'apprendre la triste nouvelle. Marthe Ignatievna, la femme de Grigori, malgré le profond sommeil où elle était plongée, se réveilla tout à coup, sans doute au cri de Smerdiakov qui gisait dans la chambrette voisine. Elle n'avait jamais pu s'habituer à ces cris de l'épileptique, précurseur de la crise, et qui l'épouvantait. Encore à moitié endormie, elle se leva et entra dans le cabinet de Smerdiakov. Dans l'obscurité, on entendait le malade râler, se débattre. Prise de peur, elle appela son mari, mais réfléchit que Grigori n'était pas là à son réveil. Elle revint tâter le lit qu'elle trouva vide. Elle courut sur le perron et appela timidement son mari. En guise de réponse, elle entendit, dans le silence nocturne, des gémissements lointains. Elle prêta l'oreille, les gémissements se répétèrent. Ils partaient bien du jardin. « Seigneur, on dirait les plaintes d'Elisabeth Smerdiatchaya. » Elle descendit, aperçut la petite porte du jardin ouverte. « Il doit être là-bas, le pauvre !» Elle s'approcha, entendit distinctement Grigori l'appeler. « Marthe ! Marthe !» d'une voix faible et dolente. « Seigneur, viens à notre secours !» murmura Marthe qui s'élança dans la direction de Grigori. Elle le trouva à 20 pas de la palissade où il était tombé. Revenu à lui, il avait dû se traîner longtemps en perdant plusieurs fois connaissance. Elle remarqua aussitôt qu'il était tout en sang et se mit à crier. Grigori murmurait faiblement des paroles entrecoupées. « Tu es son père. Pourquoi cries-tu, sotte ? Cours, appelle !» Marthe Ignatievna ne se calmait pas. Soudain, apercevant la fenêtre de son maître ouverte et éclairée, elle y courut et se mit à l'appeler. Mais un regard dans la chambre lui révéla un affreux spectacle. Fiodor Pavlovitch gisait sur le dos, inerte. Sa robe de chambre et sa chemise blanche étaient inondées de sang. La bougie, demeurée sur une table, éclairait vivement le visage du mort. Affolée, Marthe Ignatievna sortit en courant du jardin, ouvrit la porte cochère, se précipita chez Marie Kondratievna. Les deux voisines, la mère et la fille, dormaient. Les coups redoublés frappés au volet les réveillèrent. En paroles incohérentes, Marthe Ignatievna leur conta la chose et les appela au secours. Foma, d'humeur vagabonde, couchait chez elle cette nuit-là. On le fit lever aussitôt, et tous se rendirent sur le lieu du crime. En chemin, Marie Kondratievna se rappela avoir entendu, vers 9 heures, un cri perçant. C'était précisément le « parricide » de Grigori lorsqu'il avait empoigné par la jambe Dmitri Fiodorovitch déjà monté sur la palissade. Arrivés auprès de Grigori, les deux femmes, avec l'aide de Foma, le transportèrent dans le pavillon. À la lumière, on constata que Smerdiakov était toujours en proie à sa crise, les yeux révulsés, l'écume aux lèvres. On lava la tête du blessé avec de l'eau et du vinaigre, ce qui le ranima complètement. Sa première question fut pour savoir si Fiodor Pavlovitch était encore vivant. Les deux femmes et le soldat retournèrent au jardin et virent que non seulement la fenêtre, mais la porte de la maison étaient grandes ouvertes, alors que depuis une semaine, le barin s'enfermait à double tour chaque soir et ne permettait même pas à Grigori de frapper sous aucun prétexte. Ils n'osèrent entrer, de peur de s'attirer des désagréments. Sur l'ordre de Grigori, Marie Kondratievna courut chez Lispravnik donner l'alarme. Elle précéda de 5 minutes Piotr Ilitch, de sorte que celui-ci arriva comme un témoin oculaire, confirmant par son récit les soupçons contre l'auteur présumé du crime, que jusqu'alors, au fond du cœur, il avait refusé de croire coupable. On résolut d'agir énergiquement. Les autorités judiciaires se rendirent sur les lieux et procédèrent à une enquête. Le médecin du Zemstvo, un débutant, s'offrit de lui-même à les accompagner. Je résume les faits. Fiodor Pavlovitch avait la tête fracassée. Mais avec quelle arme? Probablement la même qui avait servi ensuite à assommer Grigori. Celui-ci, après avoir reçu les premiers soins, fit, malgré sa faiblesse, un récit assez suivi de ce qui lui était arrivé. En cherchant avec une lanterne près de la palissade, on trouva dans une allée, bien en vue, le pilon de cuivre. Il n'y avait aucun désordre dans la chambre de Fiodor Pavlovitch, sauf que derrière le paravent, près du lit, on trouva une enveloppe de grand format, en papier fort, avec l'inscription « 3 000 roubles pour mon ange, Krushenka, si elle veut venir ». Plus bas, Fiodor Pavlovitch avait ajouté « Et pour ma poulette ». L'enveloppe, qui portait 3 grands cachets de cire rouge, était déchiré et vide. On retrouva à terre la faveur rose qui l'entourait. Dans la déposition de Piotr Ilitch, une chose attira l'attention des magistrats. La supposition que Dmitri Fiodorovitch se suiciderait le lendemain matin, d'après ses propres paroles, le pistolet chargé, le billet qu'il avait écrit, etc. Comme Piotr Ilitch, incrédule, le menaçait d'une dénonciation pour l'en empêcher, Mitya avait répliqué en souriant « Tu n'auras pas le temps ». Il fallait donc se rendre en toute hâte à Mokroyé pour arrêter le criminel avant qu'il eût mis fin à ses jours. « C'est clair, c'est clair !» répétait le procureur surexcité. « De pareilles têtes brûlées agissent toujours ainsi. Ils font la noce avant d'en finir. » Le récit des emplettes de Dmitri l'échauffa davantage. « Rappelez-vous, messieurs, l'assassin du marchand Olsoufiev, qui s'empara de 1 500 roubles. Son premier soin fut de se friser, puis d'aller chez des filles, sans prendre la peine de dissimuler l'argent. » Mais l'enquête, les formalités demandaient du temps. On dépêcha donc à Mokroyé le Stanovoy Mavriki Mavrikievitch Shmertsvov, venu en ville toucher son traitement. Il reçut pour instruction de surveiller discrètement le criminel jusqu'à l'arrivée des autorités compétentes, de former une escorte, etc. Gardant l'incognito, il mit seulement au courant d'une partie de l'affaire Trifon Borisitch, une ancienne connaissance. C'est alors que Mitya avait rencontré sur la galerie le patron qui le cherchait, et remarquait un changement dans l'expression et le ton du personnage. Mitya et ses compagnons ignoraient donc la surveillance dont ils étaient l'objet. Quant à la boîte au pistolet, le patron l'avait depuis longtemps mise en lieu sûr. À 5 heures seulement, presque à l'aube, arrivèrent les autorités, dans 2 voitures. le médecin était resté chez Fiodor Pavlovitch pour faire l'autopsie, et surtout parce que l'état de Smerdiakov l'intéressait fort. Des crises d'épilepsie aussi violentes et aussi longues, durant 2 jours, sont fort rares et appartiennent à la science, déclara-t-il à ses partenaires lors de leur départ. Et ceux-ci le félicitèrent en riant de cette trouvaille. Il avait même affirmé que Smerdiakov ne vivrait pas jusqu'au matin. Après cette digression un peu longue mais nécessaire, nous reprenons notre récit à l'endroit où nous l'avons laissé. Chapitre 3. Les tribulations d'une âme. Première tribulation. Mitya regardait les assistants d'un air hagard, sans comprendre ce qu'on disait. Tout à coup, il se leva, tendit les bras vers le ciel et s'écria. « Je ne suis pas coupable. Je n'ai pas versé le sang de mon père. Je voulais le tuer, mais je suis innocent. Ce n'est pas moi. » À peine finissait-il de parler que Grushenka surgit de derrière les rideaux et tomba aux pieds de Lispravnik. « C'est moi, maudite, qui suis coupable !» cria-t-elle éplorée, les mains tendues. « C'est à cause de moi qu'il a tué. Ce pauvre vieillard qui n'est plus, je l'ai torturé. C'est moi la principale coupable. » « Oui, c'est toi, criminel. Tu es une coquine, une fille dépravée. » vociféra Lispravnik en la menaçant du poing. On le fit taire aussitôt. Le procureur le saisit même à bras-le-corps. « C'est du désordre, Mikhaïl Makarovitch. Vous gênez l'enquête. Vous gâtez l'affaire. » Il suffoquait presque. « Il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures !» criait de son côté Nicolas Parthenovitch. « On ne peut pas tolérer cela. » « Jugez-nous ensemble !» continuait Grushenka, toujours à genoux. « Exécutez-nous ensemble ! Je suis prête à mourir avec lui !»« Grusha, ma vie, mon sang, mon trésor sacré !» dit Mitya en s'agenouillant à côté d'elle et en l'étreignant. « Ne la croyez pas ! Elle est innocente, complètement innocente !» On les sépara de force. On emmena la jeune femme. Il défaillit et ne revint à lui qu'assis à table, entouré de gens à plaques de métal. En face, sur le divan, se tenait Nicolas Parthenovitch, le juge d'instruction, qui l'exhortait de la façon la plus courtoise à boire un peu d'eau. « Cela vous rafraîchira, vous calmera. N'ayez crainte, ne vous inquiétez pas. » Mitya s'intéressait fort à ces grosses bagues ornées, l'une d'une améthyste, l'autre d'une pierre jaune clair, d'un éclat magnifique. Longtemps après, il se rappela avec étonnement que ces bagues le fascinaient durant les pénibles heures de l'interrogatoire et qu'il ne pouvait en détacher les yeux. À gauche de Mitya siégeait le procureur. À droite, un jeune homme en veston de chasse, fort usé, devant un encrier et du papier. C'était le greffier du juge d'instruction. À l'autre extrémité de la chambre, près de la fenêtre, se tenaient Lispravnik et Kalganov. « Buvez de l'eau !» répétait doucement, pour la 10e fois, le juge d'instruction. « J'ai bu, messieurs, j'ai bu. Eh bien, écrasez-moi, condamnez-moi, décidez de mon sort !» s'écria Mitya en le fixant. « Donc ?» « Vous affirmez être innocent de la mort de votre père, Fiodor Pavlovitch. »« Oui, j'ai versé le sang de l'autre vieillard, mais pas celui de mon père, et je le déplore. J'ai tué, mais il est dur de se voir accusé d'un crime horrible qu'on n'a pas commis. C'est une terrible accusation, messieurs, un coup de massue. Mais qui donc a tué mon père? Qui pouvait le tuer sinon moi? C'est prodigieux, c'est inconcevable. » « Je vais vous le dire, » commença le juge. Mais le procureur, nous appellerons ainsi le substitut, après avoir échangé un coup d'œil avec lui, dit à Mitya, « Vous vous tourmentez inutilement au sujet du vieux domestique Grigori Vassiliev. Sachez qu'il est vivant, il a repris connaissance, et malgré le coup terrible que vous lui avez porté, d'après vos dépositions à tous deux, il en réchappera certainement. Tel est du moins l'avis du médecin. »« Vivant ? Il est vivant ? s'exclama Mitya, les mains jointes, le visage rayonnant. « Seigneur, je te rends grâce pour ce miracle insigne accordé aux pécheurs, au scélérat que je suis, à ma prière, car j'ai prié toute la nuit. » Et il se signa trois fois. « Ce même Grigori a fait à votre sujet une déposition d'une telle gravité que... » poursuivit le procureur, mais Mitya se leva brusquement. « Un instant, messieurs, de grâce, rien qu'un instant, je cours vers elle. »
« Permettez, c'est impossible maintenant !»
s'exclama Nicolas Parthenovitch, qui se leva aussi. Les individus aux plaques de métal appréhendèrent Mitya. Il se rassit d'ailleurs de bonne grâce. « C'est dommage, je voulais seulement lui annoncer que ce sang qui m'a angoissé toute la nuit est lavé et que je ne suis pas un assassin. Messieurs, c'est ma fiancée » dit-il avec respect en regardant tous les assistants. « Oh, je vous remercie, vous m'avez rendu à la vie. Ce vieillard m'a porté dans ses bras. C'est lui qui me lavait dans une auge quand j'avais 3 ans, quand j'étais abandonnée de tous. Il m'a servi de père. » « Donc, vous... » reprit le juge. « Permettez, messieurs, encore un instant, » interrompit Mitya, en s'accoudant sur la table, le visage caché dans ses mains. « Laissez-moi me recueillir, laissez-moi respirer. « Tout cela me bouleverse. On ne frappe pas sur un homme comme sur un tambour, messieurs. »«
Vous devriez boire un peu d'eau. »
Mitya se découvrit le visage et sourit. Il avait le regard vif et paraissait transformé. Ses manières aussi avaient changé. Il se sentait de nouveau l'égal de ces gens, de ses anciennes connaissances, comme s'il s'était rencontré la veille dans le monde, avant l'événement. Notons que Mitya avait d'abord été reçu cordialement chez Lispravnik, mais que par la suite, le dernier mois surtout, il avait presque cessé de fréquenter chez lui. Lispravnik, quand il le rencontrait dans la rue, fronçait les sourcils et ne le saluait que par politesse, ce qui n'échappait pas à Mitya. Et il connaissait encore moins le procureur, mais rendait parfois visite, sans trop savoir pourquoi, à sa femme. Personne nerveuse et fantasque. Elle le recevait toujours gracieusement et lui témoignait de l'intérêt. Quant au juge, il avait échangé une ou deux fois avec lui des propos sur les femmes. « Vous êtes, Nicolas Parthenovitch, un juge d'instruction fort habile à ce que je vois, » dit gaiement Mitya. « D'ailleurs, je vais vous aider. Oh, messieurs, je suis ressuscité. « Ne vous formalisez pas de ma franchise. Aussi bien, je suis un peu ivre, je l'avoue. Il me semble avoir eu l'honneur et le plaisir de vous rencontrer, Nicolas Parthenovitch, chez mon parent Miusov. Messieurs, je ne prétends pas à l'égalité, je comprends ma situation vis-à-vis de vous. Il pèse sur moi, si Grigori m'accuse. Il pèse sur moi, bien sûr, une charge terrible, je le comprends très bien. Mais, au fait, messieurs, je suis prêt et nous en aurons bientôt fini. Si je suis sûr de mon innocence, ce ne sera pas long, n'est-ce pas ? » Mitya parlait vite, avec expansion, comme s'il prenait ses auditeurs pour ses meilleurs amis. « Ainsi, nous notons en attendant que vous niez formellement l'accusation portée contre vous, » dit d'un ton grave Nicolas Parthenovitch. Et il dicta à demi-voix au greffier le nécessaire. « Notez, vous voulez noter ça ? Soit, j'y consens. Je donne mon plein consentement, messieurs. Seulement, voyez. Attendez, écrivez ceci. Il est coupable de voies de fait, d'avoir asséné des coups violents à un pauvre vieillard. Et puis, dans mon fort intérieur, au fond du cœur, je me sens coupable, mais cela, il ne faut pas l'écrire. » « C'est ma vie privée, messieurs, cela ne vous regarde pas, ce sont les secrets du cœur. Quant à l'assassinat de mon vieux père, j'en suis innocent. C'est une idée monstrueuse, je vous le prouverai. Vous serez convaincus tout de suite, vous rirez vous-même de vos soupçons. »«
Calmez-vous, Dmitri Fiodorovitch, » dit le juge.
« Avant de poursuivre l'interrogatoire, je voudrais, si vous consentez à répondre, que vous me confirmiez un fait. » « Vous n'aimiez pas le défunt, paraît-il.
Vous aviez constamment des démêlés avec lui. Ici, tout au moins, il y a un quart d'heure, vous avez déclaré avoir eu l'intention de le tuer.
« Je ne l'ai pas tué, avez-vous dit, mais j'ai voulu le tuer. »
« J'ai dit cela. Oh, c'est bien possible. Oui, plusieurs fois, j'ai voulu le tuer, malheureusement. »
« Vous le vouliez. Consentez-vous à nous expliquer les motifs de cette haine contre votre père ?»«
À quoi bon des explications, messieurs ?» fit Mitya d'un air morne en haussant les épaules.
« Je ne cachais pas mes sentiments, toute la ville les connaît. Il n'y a pas longtemps, je les ai manifestés au monastère, dans la cellule du Staré Zosim. Le soir du même jour, j'ai battu et presque assommé mon père, en jurant devant témoins que je viendrais le tuer.
Oh, les témoins ne manquent pas, j'ai crié cela durant un mois.
Le fait est patent, mais les sentiments, c'est une autre affaire. Voyez-vous, messieurs, j'estime que vous n'avez pas le droit de m'interroger là-dessus. Malgré l'autorité dont vous êtes revêtu, c'est une affaire intime qui ne regarde que moi. Mais puisque je n'ai pas caché mes sentiments auparavant, j'en ai parlé à tout le monde au cabaret, alors je n'en ferai pas un mystère maintenant. Voyez-vous, messieurs, je comprends qu'il y a contre moi des charges accablantes. J'ai dit à tous que je le tuerai, et voilà qu'on l'a tué. N'est-ce pas moi le coupable en pareil cas ?
Je vous excuse, messieurs, je vous excuse complètement.
Je suis moi-même stupéfait. Qui donc est l'assassin dans ce cas, sinon moi ? N'est-ce pas vrai ? Si ce n'est pas moi, qui est-ce donc ? Messieurs, je veux savoir, j'exige que vous me disiez où il a été tué, comment, avec quelle arme ?
Il regarda longuement le juge et le procureur. « Nous l'avons trouvé gisant sur le plancher, dans son bureau, la tête fracassée, » dit le procureur.
« C'est terrible, messieurs !»
Mitya frémit, s'accouda à la table, se cacha le visage de sa main droite.
« Continuons, » dit Nicolas Parthenovitch. « Alors, quel motif inspirait votre haine ? Vous avez, je crois, déclaré publiquement qu'elle provenait de la jalousie. »
« Eh oui, la jalousie et autre chose encore. »«
Des démêlés d'argent ?»«
Eh oui, l'argent jouait aussi un rôle. »«
Et il s'agissait, je crois, de 3 000 roubles que vous n'aviez pas touchés sur votre héritage. »«
Comment 3 000 ? Davantage, plus de 6 000, plus de 10 000 peut-être. »«
Je l'ai dit à tout le monde, je l'ai crié partout. »«
Mais j'étais décidé, pour en finir, à transiger à 3 000 roubles. » Il me les fallait à tout prix, de sorte que ce paquet caché sous un coussin et destiné à Grushenka, je le considérais comme ma propriété, qu'on m'avait volée, oui, messieurs, comme étant à moi.
Le procureur échangea un coup d'œil significatif avec le juge. « Nous reviendrons là-dessus, » dit aussitôt le juge. « Pour le moment, permettez-nous de noter ce point. Que vous considériez l'argent enfermé dans cette enveloppe comme votre propriété.
Écrivez, monsieur. Je comprends que c'est une nouvelle charge contre moi, mais cela ne me fait pas peur. Je m'accuse moi-même.
Vous entendez ? Moi-même. Voyez-vous, messieurs, je crois que vous vous méprenez du tout au tout sur mon compte,
ajouta-t-il tristement.
L'homme qui vous parle est loyal. Il a commis maintes bassesses, mais il est toujours demeuré noble au fond de lui-même. Bref, je ne sais pas m'exprimer. Cette soif de noblesse m'a toujours tourmenté. Je la recherchais avec la lanterne de Diogène. Et pourtant, je n'ai fait que des vilenies, comme nous tous, messieurs. C'est-à-dire, comme moi seul. Je me trompe. Je suis le seul de mon espèce.
Messieurs, j'ai mal à la tête. Voyez-vous, tout me dégoûtait en lui. Son extérieur, je ne sais quoi de malhonnête, sa vantardise et son mépris pour tout ce qui est sacré, sa bouffonnerie et son irréligion. Mais maintenant qu'il est mort, je pense autrement.
Comment cela, autrement ?
C'est-à-dire non, pas autrement, mais je regrette de l'avoir tant détesté.
Vous éprouvez des remords ?
« Non, pas des remords, ne notez pas cela.
Moi-même, messieurs, je ne brille ni par la bonté ni par la beauté. Aussi n'avais-je pas le droit de le trouver répugnant. Vous pouvez noter cela. »
Ayant ainsi parlé, Mitya parut fort triste. Il devenait de plus en plus morne à mesure qu'il répondait aux questions du juge.
C'est à ce moment que se déroula une scène inattendue. Bien qu'on eût éloigné Grushenka, elle se trouvait dans une chambre proche de celle où avait lieu l'interrogatoire, en compagnie de Maximov, abattu et terrifié, qui s'attachait à elle comme à une ancre de salut. Un individu à plaque de métal gardait la porte. Grushenka pleurait. Tout à coup, incapable de résister à son chagrin, après avoir crié « Malheur, malheur !», elle courut hors de la chambre vers son bien-aimé, si brusquement que personne n'eut le temps de l'arrêter. Mitya, qui l'avait entendu, frémit, se précipita à sa rencontre. Mais on les empêcha de nouveau de se rejoindre. On le saisit par les bras, il se débattit avec acharnement, il fallut 3 ou 4 hommes pour le maintenir. On s'empara aussi de Grushenka, et il la vit qui lui tendait les bras tandis qu'on l'emmenait. La scène passée, il se retrouva à la même place, en face du juge.
« Pourquoi la faire souffrir ? » s'écria-t-il. « Elle est innocente !»
Le procureur et le juge s'efforcèrent de le calmer. 10 minutes s'écoulèrent ainsi. Mikhaïl Makarovitch, qui était sorti, rentra et dit tout ému «
Elle est en bas. Me permettez-vous, messieurs, de dire un mot à ce malheureux, en votre présence, bien entendu ?»«
Comme il vous plaira, Mikhaïl Makarovitch. Nous n'y voyons aucun inconvénient, » dit le juge.
« Dmitri Fiodorovitch, écoute, mon pauvre ami, » commença le brave homme, dont le visage exprimait une compassion presque paternelle. Agrafena Alexandrovna se trouve en bas, avec les filles du patron. Le vieux Maximov ne la quitte pas. Je l'ai rassuré. Je lui ai fait comprendre que tu devais te justifier, qu'il ne fallait pas te troubler, sinon tu aggraverais les charges contre toi. Comprends-tu? Bref, elle a saisi. Elle est intelligente et bonne. Elle voulait me baiser les mains, demandant grâce pour toi. C'est elle qui m'a envoyé te rassurer. « Il faut que je puisse lui dire que tu es tranquille à son sujet. Calme-toi donc. Je suis coupable devant elle. C'est une âme tendre et innocente. Puis-je lui dire, Dmitri Fiodorovitch, que tu seras calme ?»
Le bonhomme était ému de la douleur de Grushenka. Il avait même les larmes aux yeux. Mitya s'élança vers lui.
« Pardon, messieurs, permettez, je vous en prie. Vous êtes un ange, Mikhaïl Makarovitch. Merci pour elle. Je serai calme, je serai gai. Dites-le-lui dans votre bonté. Je vais même me mettre à rire, sachant que vous veillez sur elle. Je terminerai bientôt cela. Sitôt libre, je cours à elle, qu'elle prenne patience. Messieurs, je vais vous ouvrir mon cœur. Nous allons terminer tout cela gaiement. Nous finirons par rire ensemble, n'est-ce pas? Messieurs, cette femme, c'est la reine de mon âme. Oh, laissez-moi vous le dire. Je crois que vous êtes de noble cœur. Elle éclaire et ennoblit ma vie. Oh, si vous saviez. Vous avez entendu ses cris? J'irai avec toi à la mort. Que lui ai-je donné, moi qui n'ai rien? Pourquoi un pareil amour? Suis-je digne, moi, vile créature, d'être aimée au point qu'elle me suive au bagne? Tout à l'heure, elle se traînait à vos pieds pour moi, elle, si fière et innocente. Comment ne pas l'adorer, ne pas m'élancer vers elle? Messieurs, pardonnez-moi. Maintenant, me voilà consolée. »
Il tomba sur une chaise et, se couvrant le visage de ses mains, se mit à sangloter. Mais c'était des larmes de joie. Le vieil Ispravnik paraissait ravi, les juges également. Il sentait que l'interrogatoire entrait dans une phase nouvelle. Quand l'Ispravnik fut sorti, Mitya devint gai.
« Eh bien, messieurs, à présent je suis tout à vous. N'étaient tous ces détails, nous nous entendrions aussitôt. Messieurs, je suis à vous, mais il faut qu'une confiance mutuelle règne entre nous. Sinon, nous n'en finirons jamais. C'est pour vous que je parle. Au fait, messieurs, au fait.
Surtout, ne fouillez pas dans mon âme. Ne la torturez pas avec des bagatelles. Tenez-vous-en à l'essentiel, et je vous donnerai satisfaction. Au diable, les détails !» Ainsi parla Mitya. L'interrogatoire recommença. Chapitre 4. Deuxième tribulation.
Vous ne sauriez croire combien votre bonne volonté nous réconforte, Dmitri Fiodorovitch,
dit Nicolas Parthénovitch, dont les yeux gris clairs, des yeux de myope à fleur de tête, brillaient de satisfaction.
Vous avez parlé avec raison de cette confiance mutuelle, indispensable dans les affaires d'une telle importance. Si l'inculpé désire, espère et peut se justifier. De notre côté, nous ferons tout ce qui dépendra de nous. Vous avez pu voir comment nous menons cette affaire.
Vous êtes d'accord, Hippolyte Kirillovitch ?
Certes,
approuva le procureur, toutefois sur un ton un peu sec. Notons une fois pour toutes que Nicolas Parthénovitch témoignait, depuis sa récente entrée en fonction, un profond respect au procureur, pour qui il éprouvait de la sympathie. Il était presque seul à croire aveuglément au remarquable talent psychologique et oratoire d'Hippolyte Kirillovitch, dont il avait entendu parler dès Pétersbourg. En revanche, le jeune Nicolas Parthénovitch était le seul homme au monde que notre malchanceux procureur aima sincèrement. En chemin, ils avaient pu se concerter au sujet de l'affaire qui s'annonçait. Et maintenant, l'esprit aigu du juge saisissait au vol et interprétait chaque signe, chaque jeu de physionomie de son collègue.
« Messieurs, reprit Mitya, laissez-moi vous raconter les choses sans m'interrompre à propos de bagatelles. Ce ne sera pas long. »
Très bien, mais avant de vous entendre, permettez-moi de constater ce petit fait très curieux pour nous. Vous avez emprunté 10 roubles hier au soir à 5 heures en laissant vos pistolets en gage à votre ami Piotr Ilitch Perkotine.
Oui, messieurs, je les ai engagés pour 10 roubles à mon retour de voyage.
Et puis?
Vous reveniez de voyage? Vous aviez quitté la ville?
J'étais allé à 40 verstes, messieurs, vous n'en saviez rien?
Le procureur et le juge échangèrent un regard.
« Vous feriez bien de commencer votre récit en décrivant méthodiquement votre journée dès le matin. Veuillez nous dire, par exemple, pourquoi vous vous êtes absenté, le moment de votre départ et de votre retour. »«
Il fallait me le demander tout de suite, » dit Mitya en riant.
« Si vous voulez, je remonterai à avant-hier. Alors vous comprendrez le sens de mes démarches. » Ce jour-là, dès le matin, je suis allé chez le marchand Samsonov pour lui emprunter 3 000 roubles contre de sûres garanties. Il me fallait cette somme au plus vite.
« Permettez !» interrompit d'un ton poli le procureur.
« Pourquoi aviez-vous besoin tout à coup d'une pareille somme ?»«
Eh, monsieur, que de détails! Comment, quand, pourquoi, pour quelle raison une pareille somme et non une autre? Verbiage que tout cela !» De ce train-là, 3 volumes n'y suffiraient pas, et il faudrait un épilogue.
Mitya parlait avec la bonhomie familière d'un homme animé des meilleures intentions et désireux de dire toute la vérité.
« Messieurs, reprit-il, veuillez excuser ma brusquerie. Soyez sûrs de mes sentiments respectueux à votre égard. Je ne suis plus ivre. Je comprends la différence qui nous sépare. » Je suis, à vos yeux, un criminel que vous devez surveiller. Vous ne me passerez pas la main dans les cheveux pour Grigori. On ne peut pas assommer impunément un vieillard. Cela me vaudra 6 mois ou 1 an de prison, mais sans déchéance civique, n'est-ce pas, procureur? Je comprends tout cela. Mais avouez que vous déconcerteriez Dieu lui-même avec ces questions. Où es-tu allé? Comment et quand? Pourquoi?
« Je m'embrouillerai de cette façon. Vous en prendrez note aussitôt, et qu'est-ce qui en résultera ?»«
Rien. Enfin, si j'ai commencé à mentir, j'irai jusqu'au bout, et vous me le pardonnerez, étant donné votre instruction et la noblesse de vos sentiments. Pour terminer, je vous prie de renoncer à ce procédé officiel qui consiste à poser des questions insignifiantes. Comment t'es-tu levé? Qu'as-tu mangé? Où as-tu craché ?
et l'attention de l'inculpé étant endormie, à le bouleverser en lui demandant « Qui as-tu tué ? Qui as-tu volé ?» Ah, voilà votre procédé classique. Voilà sur quoi se fonde toute votre ruse. Employez ce truc avec des croquants, mais pas avec moi. J'ai servi, je connais les choses. Vous n'êtes pas fâchés, messieurs. Vous me pardonnez mon insolence. »
Il les regardait avec une étrange bonhomie.
« On peut avoir plus d'indulgence pour Mitya Karamazov que pour un homme d'esprit.
» Le juge riait. Le procureur restait grave, ne quittait pas Mitya des yeux, observait attentivement ses moindres gestes, ses moindres mouvements de physionomie.
« Pourtant, » dit Nicolas Parthenovitch en continuant de rire, « nous ne vous avons pas dérouté d'abord par des questions telles que « Comment vous êtes-vous levé ce matin? Qu'avez-vous mangé ?»« Nous sommes même allés trop vite au but. »«
Je comprends, j'apprécie toute votre bonté. Nous sommes tous les trois de bonne foi. Il doit régner entre nous la confiance réciproque de gens du monde, liés par la noblesse et l'honneur. En tout cas, laissez-moi vous regarder comme mes meilleurs amis dans ces pénibles circonstances. Cela ne vous offense pas, messieurs. »
« Pas du tout, vous avez bien raison, Dmitri Fiodorovitch, » approuva le juge. « Et les détails, messieurs, toute cette procédure chicanière, laissons cela de côté !» s'exclama Mitya très exalté. « Autrement, nous n'aboutirons à rien !»«
Vous avez tout à fait raison, » intervint le procureur, « mais je maintiens ma question. » Il nous est indispensable de savoir pourquoi vous aviez besoin de ces 3 000 roubles.
Pour une chose ou une autre, qu'importe. Pour payer une dette.
À qui?
Cela, je refuse absolument de vous le dire, messieurs. Ce n'est pas par crainte ni timidité, car il s'agit d'une bagatelle. Mais par principe, cela regarde ma vie privée, et je ne permets pas qu'on y touche. « Votre question n'a pas trait à l'affaire, donc elle concerne ma vie privée. Je voulais acquitter une dette d'honneur, je ne dirai pas envers qui. »«
Permettez-nous de noter cela, » dit le procureur.
« Je vous en prie, écrivez que je refuse de le dire, estimant que ce serait malhonnête. On voit bien que le temps ne vous manque pas pour écrire. »«
Permettez-moi, monsieur, de vous prévenir, de vous rappeler encore, si vous l'ignorez, » dit d'un ton sévère le procureur, « que vous avez le droit absolu de ne pas répondre à nos questions, que d'autre part, nous n'avons nullement le droit d'exiger des réponses que vous ne jugez pas à propos de faire. Mais nous devons attirer votre attention sur le tort que vous vous causez en refusant de parler. Maintenant, veuillez continuer. »
« Messieurs, je ne me fâche pas, je... »
bredouilla Mitya un peu confus de cette observation. « Voyez-vous ce Samsonov chez qui je suis allé ?»«
Bien entendu, nous ne reproduirons pas son récit des faits que le lecteur connaît déjà. » Dans son impatience, le narrateur voulait tout raconter en détail, bien que rapidement. Mais on notait au fur et à mesure ses déclarations. Il fallait donc l'arrêter. Dmitri Fiodorovitch s'y résigna en maugréant. Il s'écriait parfois «
Messieurs, il y a de quoi exaspérer Dieu lui-même !»
Ou « Messieurs, savez-vous que vous m'agacez sans raison ?»
Mais malgré ses exclamations, il restait expansif. C'est ainsi qu'il raconta comment Samsonov l'avait mystifié. Il s'en rendait parfaitement compte maintenant. La vente de la montre pour 6 roubles, afin de se procurer l'argent du voyage, intéressa fort les magistrats qui l'ignoraient encore. À l'extrême indignation de Mitya, on jugea nécessaire de considérer en détail ce fait, qui établissait à nouveau que la veille aussi, il était déjà presque sans le sou. Peu à peu, Mitya devenait morne. Ensuite, après avoir décrit sa visite chez Liagavi, la nuit passée dans l'isba et le commencement d'asphyxie, il aborda son retour en ville et se mit de lui-même à décrire ses tourments jaloux au sujet de Grushenka. Les juges l'écoutaient en silence et avec attention, notant surtout le fait que depuis longtemps, il avait un poste d'observation dans le jardin de Marie Kondratievna, pour le cas où Grushenka viendrait chez Fiodor Pavlovitch, et que Smerdiakov lui transmettait des renseignements. Ceci fut mentionné en bonne place. Il parla longuement de sa jalousie, malgré sa honte d'étaler ses sentiments les plus intimes, pour ainsi dire, au déshonneur public. Mais il la surmontait afin d'être véridique. La sévérité impassible des regards fixés sur lui durant son récit finit par le troubler assez fort. « Ce gamin avec qui je bavardais sur les femmes il y a quelques jours, et ce procureur maladif, ne méritent pas que je leur raconte cela » songeait-il tristement. « Quelle honte !»« Supporte, résigne-toi, tais-toi » concluait-il tout en s'affermissant pour continuer. Arrivé à la visite chez Madame Koklakov, il redevint gai et voulut même raconter sur elle une anecdote récente, hors de propos. Mais le juge l'interrompit et l'invita à passer à l'essentiel. Ensuite, ayant décrit son désespoir et parlé du moment où, en sortant de chez cette dame, il avait même songé à égorger quelqu'un pour se procurer 3 000 roubles, on l'arrêta pour consigner la chose. Enfin, il raconta comment il avait appris le mensonge de Grushenka, repartit aussitôt de chez Samsonov, tandis qu'elle devait, affirmait-elle, rester chez le vieillard jusqu'à minuit. « Si je n'ai pas tué alors cette feigna, messieurs, c'est uniquement parce que le temps me manquait. » laissa-t-il échapper. Cela aussi fut noté. Mitya attendit d'un air morne, et allait expliquer comment il était entré dans le jardin de son père, lorsque le juge l'interrompit, et ouvrant une grande serviette qui se trouvait auprès de lui, sur le divan, en sortit un pilon de cuivre. « Connaissez-vous cet objet ?»« Ah oui, comment donc ? Donnez que je le voie. »« Oh, diable, c'est inutile !»« Vous avez oublié d'en parler. »« Que diable ? Pensez-vous que je vous l'aurais caché ? Je l'ai oublié, voilà tout !» « Veuillez nous raconter comment vous vous êtes procuré cette arme. »«
Volontiers, messieurs. »
Et Mitya conta comment il avait pris le pilon et s'était sauvé. « Mais quelle était votre intention en vous emparant de cet instrument ?»«
Quelle intention ? Aucune. Je l'ai pris et me suis enfui. » »«
Pourquoi donc, si vous n'aviez pas d'intention ?» L'irritation gagnait Mitya. Il fixait le « gamin » avec un mauvais sourire. Regrettait la franchise qu'il avait montrée à de tels gens à propos de sa jalousie.
« Je m'en fiche du pilon !»«
Pourtant... »«
Eh bien, c'est contre les chiens. Il faisait sombre. À tout hasard. » »«
Auparavant, quand vous sortiez la nuit, aviez-vous aussi une arme, puisque vous craignez tant l'obscurité ?»«
Sapristi, messieurs, il n'y a pas moyen de causer avec vous !»
s'écria Mitya exaspéré, et s'adressant, rouge de colère, au greffier.
« Écris tout de suite. Il a pris le pilon pour aller tuer son père, pour lui fracasser la tête. « Êtes-vous contents, messieurs ? »
dit-il d'un air provoquant. « Nous ne pouvons tenir compte d'une telle déposition inspirée par la colère. Nos questions vous paraissent futiles et vous irritent, alors qu'elles sont très importantes. » dit sèchement le procureur.
« De grâce, messieurs, j'ai pris ce pilon. Pourquoi prend-on quelque chose en pareil cas ? Je l'ignore. Je l'ai pris et me suis sauvé. Voilà tout. C'est honteux, messieurs. Passons, sinon je vous jure que je ne dirai plus un mot. »
Il s'accouda, la tête dans la main. Il était assis de côté par rapport à eux et regardait le mur, s'efforçant de surmonter un mauvais sentiment. Il avait, en effet, grande envie de se lever, de déclarer qu'il ne dirait plus un mot. Dût-on le mener au supplice ?
Voyez-vous, messieurs, en vous écoutant, il me semble faire un rêve, comme ça m'arrive parfois. Je rêve souvent que quelqu'un me poursuit, quelqu'un dont j'ai grand peur et qui me cherche dans les ténèbres. Je me cache honteusement derrière une porte, derrière une armoire. L'inconnu sait parfaitement où je me trouve. Mais il feint de l'ignorer afin de me torturer plus longtemps, de jouir de ma frayeur. C'est ce que vous faites maintenant.
Vous avez de pareils rêves ? s'informa le procureur.
« Oui, j'en ai. Ne voulez-vous pas le noter ?»«
Non, mais vous avez d'étranges rêves. »«
Maintenant, ce n'est plus un rêve. C'est la réalité, messieurs. Le réalisme de la vie. Je suis le loup, vous êtes les chasseurs. »«
Votre comparaison est injuste, » dit doucement le juge.
« Pas du tout, messieurs !»
fit Mitya avec irritation, bien que sa brusque explosion de colère l'eût soulagé.
« Vous pouvez refuser de croire un criminel ou un inculpé que vous torturez avec vos questions, mais non un homme animé de nobles sentiments. Je le dis hardiment, vous n'en avez pas le droit. Mais...
« Silence, mon cœur, supporte, résigne-toi, tais-toi. »
« Faut-il continuer ?»
demanda-t-il d'un ton revêche.
« Comment donc, je vous en prie ?» dit le juge.